Aujourd'hui, parlons entreprise, on va s'intéresser au contrôle de l'URSSAF. Et oui, affiche, annonce, le contrôleur URSSAF entre légende urbaine. Panique et méconnaissance totale à cette formalité administrative. Et la hantise de beaucoup d'entrepreneurs. Pourtant, si vous tenez une comptabilité dans les règles de l'art et n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez aucun souci à vous faire. Faisons le point et dédramatisons ensemble le contrôle de l'URSSAF avec Coach Day qui est en direct avec nous. Bonjour Coach.
Bonjour Phil.
Le code qui sera de retour physiquement dans nos studios à partir de la semaine prochaine. Le contrôle de l'URSSAF qui fait trembler les entrepreneurs, dès qu'on entend URSSAF, on est tout de suite mal à l'aise. Pourquoi coach ?
Pourquoi ? Ben, quand on parle de contrôle, je pense que personne n'aime être contrôlé, même si on fait bien les choses. Mais comme vous le savez, quand il y a des entreprises, quand il y a des chefs d'entreprise, et on est dans l'obligation quand même de vérifier que les assiettes de cotisation soient exactes, soient bien vérifiables et que l'État, quand on parle l'État, souvent je le répète, l'État c'est nous tous, essaie d'éviter au maximum les fraudeurs. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de accepter, de comprendre que ce contrôle URSSAF est nécessaire pour le bon fonctionnement de notre sécurité sociale ici en France.
Alors coach, un contrôle URSSAF, à quoi ça sert véritablement ?
On va juste déjà poser les bases. L'URSSAF, c'est l'Union de recouvrement pour la sécurité sociale et des allocations familiales. Elle est chargée par l'État de collecter les cotisations sociales des entreprises pour le bon fonctionnement de la sécurité sociale. Donc à l'intérieur, on retrouve toutes les cotisations liées à l'accident de travail, chômage, allocation familiale. Cet organisme-là récolte correctement toutes ces sommes qui proviennent à la fois de la part salariale qui représente à peu près 25% et de la part patronale qui représente 35%. Il est rappelé que c'est le patron qui est en charge de reverser la globalité des cotisations. Pour un salarié lambda qui gagne à peu près 2000 euros net, il est rappelé qu'il y a 2000 euros de cotisation à la fois salariale et patronale que l'employeur...
Donc au total, l'employeur reverse, on va dire, 4000 euros.
Et voilà, l'employeur verse 4000 euros. Souvent, quand on est salarié, on ne prend pas considération de tous ces éléments-là. C'est dès lors qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'on voit le net à payer à son salarié et derrière le chèque qu'on doit faire à la fois à l'URSSAF, à la mutuelle, à la prévoyance et aux caisses de retraite complémentaires. Là, on se rend compte du coût social qu'il y a ici en France. Mais ce coût social est important. Pourquoi ? Parce qu'on a une sécurité sociale qui est aussi normalement à la hauteur. La plupart d'entre nous, quand vous allez voir le médecin, vous payez quasiment pas grand-chose. À l'hôpital, que ce soit des accouchements et consorts, c'est aux frais des hôpitaux. Mais tout cet argent-là provient des cotisations que à la fois les employeurs versent et les salariés versent aussi. Le secteur hospitalier, les revenus, les salaires qui sont versés aux infirmiers, aux médecins, tout cela provient aussi des cotisations que tout un chacun nous versons quand nous sommes bien sûr actifs et que nous travaillons.
Quelles cotisations sont concernées, coach ?
En fait, c'est toutes les cotisations et contributions sociales exigibles à l'URSSAF au cours de 3 dernières années. Quand vous êtes contrôlé, le contrôleur URSSAF, quand il se présente chez vous ou soit il vous reçoit dans leur bureau, il peut contrôler maximum 3 ans.
Ah, donc, carrément.
C'est 3 ans. Il peut remonter, là si on vient vous contrôler là sur 2020, il peut contrôler 2019, 2018 et 2017. Donc il est là pour vérifier que les assiettes, quand on parle d'assiettes, c'est les bases de rémunération qui servent à calculer les cotisations à verser pour chaque segment de cotisation, accident de travail, chômage, allocation familiale, veuvage, vieillesse. Donc il y a des taux qui sont déterminés et chaque employeur soit en interne, parce qu'ils ont un comptable interne, soit par le biais de leur cabinet d'expertise comptable, ben, ils ont externalisé cette tâche-là. Mais l'entreprise, soit c'est par mois, soit c'est par trimestre, reverse auprès de l'URSSAF toutes ces cotisations.
Alors, coach, qui peut être soumis à ce fameux contrôle de l'URSSAF ? Toute personne ?
Toute personne morale ou physique qui fait une déclaration sociale. C'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise, vous êtes considéré comme une personne morale. À la fois le dirigeant, si il perçoit des rémunérations dans le cas d'une SAS ou dans le cas d'une SARL, il y a l'obligation de payer des cotisations sociales. Mmh. Voilà. Donc, et si vous êtes aussi une entreprise individuelle, vous passez aussi dans le cadre d'encaissement de cotisations. Voilà. Il n'y a aucune rémunération, pour savoir, aucune rémunération ici en France n'est pas soumise à une cotisation sociale. Donc, quand vous percevez de l'argent, sachez-le qu'à un moment donné, par rapport au travail, vous êtes dans l'obligation de cotiser, vous en qualité de salarié et l'employeur en qualité d'employeur. Voilà.
Alors, coach, où se passe justement ce contrôle de l'URSSAF ?
Le contrôle de l'URSSAF peut se passer dans leurs locaux. Quand vous êtes une entreprise de moins de 10 salariés, ça s'appelle le plus souvent le contrôle sur pièce. L'inspecteur va vous réclamer même par mail, à lui envoyer certains éléments, à savoir les fiches de paye, vos états mensuels annualisés et les fiches de tous les salaires que vous avez au sein de votre entreprise, votre comptabilité, pour vérifier la cohérence entre ce que vous faites sur le plan social et la comptabilité, est-ce que les choses sont cohérentes. Par contre, il y a cette possibilité-là que le contrôle se fasse sur place. Là, vous allez recevoir un avis de vérification. Vous aurez 15 jours, il y a minimum 15 jours entre l'avis et le passage de l'inspecteur pour qu'il puisse se présenter dans vos locaux et pouvoir démarrer son contrôle. Je conseille bien sûr que quand l'inspecteur vient dans vos locaux, essayez de le mettre, c'est même pas essayer, mettez-le dans les bonnes conditions d'accueil avec un bureau quand on est en hiver, un bureau chauffé, à éventuellement lui proposer un café, parce que si vous déclarez la guerre dès le départ...
Alors si vous n'avez pas de café, vous dites au contrôleur, écoutez, je vous donne de l'eau, un petit verre d'eau.
Un petit verre d'eau, voilà, tout à fait, un petit verre d'eau, ça fait pas de mal. Ouais. Il faut essayer quand même d'avoir une relation professionnelle et accueillir dans les bonnes conditions la personne qui va se présenter à vous. Mmh. Voilà.
Alors, je rappelle aux auditeurs de la radio africaine que vous pouvez nous appeler au 01 55 07 58 00. On parle du contrôle de l'URSSAF. Alors, il existe, coach, plusieurs étapes qui composent tous les contrôles URSSAF.
Oui, tout à fait. La première étape, c'est simplement la notification. C'est un courrier qui arrive, c'est l'avis de contrôle ou avis de vérification. C'est clair, dès que vous recevez ce courrier-là, un par lettre simple, une lettre recommandée, vous commencez un peu à trembler parce que vous dites « j'espère que j'ai tout fait correctement, j'espère que mon comptable ou mon cabinet d'expertise a réalisé les choses selon les normes ». Voilà, il y a déjà cette première impression qui monte parce que vous savez qu'un chef d'entreprise, à un moment donné, vous passerez par cette case-là parce que l'URSSAF vient à la fois contrôler, mais aussi vous donner des conseils, parce que quand on vient, il va vérifier que vous faites les choses correctement. Mmh. Donc cette première étape, c'est déjà le courrier. Vous aurez 15 jours avant de recevoir la personne physiquement. Après, il y a le contrôle en lui-même. L'agent va se présenter au sein de votre entreprise. Mmh. Vous devrez lui mettre à disposition les éléments qui vont lui permettre de vérifier. De vérifier les montants de cotisation payés, les rémunérations soumises à cotisation, les frais professionnels déductibles des cotisations et de la mise en application des mesures d'exonération de cotisation, par exemple la réduction en Fillon qui est valable sur les bas salaires. Voilà, donc quand l'inspecteur vient, il vient déjà vérifier que si vous avez respecté un peu ces assiettes-là et les cotisations dues. D'accord. Après, on arrive au niveau de la troisième étape, c'est la lettre d'observation. Une fois que l'inspecteur a réalisé tous les contrôles, a tout vérifié, vous allez recevoir de sa part une lettre d'observation par voie postale. Mm-hmm. Cette lettre-là, c'est les conclusions du contrôle. si tout se passe bien, ben vous aurez juste des observations en disant, ben écoutez, merci d'améliorer tel élément, il n'y aura absolument rien à payer. Uh-huh. Vous pouvez aussi vous retrouver à avoir un crédit, vous avez trop payé au niveau des cotisations, vous avez majoré vos bases de cotisations. L'URSSAF, voilà, c'est aussi un organisme honnête, va vous retrocéder le trop perçu au niveau des cotisations.
On a droit également à une période contradictoire ?
Oui, si vous n'êtes pas en accord, il peut arriver que selon l'interprétation des textes sur lesquels l'inspecteur de l'URSSAF se base, vous n'êtes pas en accord. Mmh. Par le biais de votre avocat, de votre expert comptable ou même vous-même, ben vous avez 30 jours pour faire valoir un peu vos droits en disant, ben écoutez, sur cet élément-là, je ne suis pas d'accord, voici preuve à l'appui, je m'appuie de tel texte, et ou bien il y a des fois, au moment du contrôle, il manquait des pièces justificatives, vous pouvez les produire durant les 30 jours que vous avez devant vous pour pouvoir, contredire la notification. Voilà, donc vous avez 30 jours par rapport à ça.
C'est quoi le rapport au contrôle ?
En fait, c'est une fois qu'on a passé la période contradictoire entre ce que l'inspecteur réclamait et ce que vous étiez en désaccord avec l'inspecteur, on a un document final qui est donné. Par rapport à ça, c'est soit le rapport décide carrément à dire que nous avons trouvé aucun élément amenant à faire un redressement. Vous aurez cette note-là, rien à dire, vous avez fait du bon travail, il n'y a pas de cotisation supplémentaire à verser. Ou par contre, vous avez une note de redressement parce que vous avez minoré les cotisations de l'entreprise. Donc, vous allez par la suite recevoir un avis de recouvrement et vous aurez 30 jours pour régler cette somme-là. Bien sûr, les 30 jours, c'est la loi qui le précise, mais comme vous pouvez le savoir, vous pouvez vous retrouver en difficulté financière, vous pourrez négocier un échéancier auprès de l'URSSAF et pour pouvoir étaler le règlement. Ils sont intransigeants sur la part salariale, parce que le salarié a confié à l'entreprise sa part pour que vous puissiez le reverser à l'URSSAF. Donc ils vont vous exiger au minimum de verser la part salariale. Par contre, la part patronale pourra faire objet d'un étalement sur 12 mois, voire plus, si votre négociation est à la hauteur.
Justement, coach, en règle générale, un contrôle URSSAF dure combien de temps ?
Un contrôle URSSAF peut durer maximum 3 mois pour les petites entreprises. Au bout de 3 mois, vous allez recevoir votre notification.
Alors, pourquoi êtes-vous soumis à un contrôle URSSAF ?
Oui, souvent, les entreprises, les entrepreneurs se disent « Ah, mais j'ai sûrement été dénoncé. »
Parce que cela décourage certains entrepreneurs, justement, qui ont le sentiment que l'URSSAF vient un peu casser l'enthousiasme que l'on peut avoir par rapport à son entreprise.
Oui, mais cet enthousiasme-là, des fois, vous créez une entreprise, vous ne maîtrisez pas tout. Souvent, en plus, certains entrepreneurs, par souci d'économie, ne font pas appel à des professionnels spécialisés. Elles vont elles-mêmes se dire, tiens, je suis capable, grâce à Internet, faire moi-même mes fiches de paye, faire moi-même mes déclarations sociales. Et malheureusement, quand vous ne maîtrisez pas ce domaine-là, vous n'avez pas les compétences dédiées, il va se trouver que y a un problème, les cotisations attendues ne sont pas à la hauteur. Donc l'URSSAF est là pour à la fois vous rappeler les obligations, contrôler et aussi vous conseiller. Donc, voir d'un mauvais œil la présence de l'URSSAF, c'est comme quand on est contrôlé par la police, quand vous êtes en train de conduire, un citoyen qui respecte les règles, normalement, n'est pas censé craindre la police.
Et alors, coach, on va aussi donner la parole très rapidement à quelques auditeurs qui sont en souffrance. Allô, allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, c'est monsieur.
Monsieur Traoré.
Monsieur Traoré, nous écoutons votre question.
Ma question, elle est la suivante. Lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est patron salarié et qu'on effectue soi-même son activité, est-ce qu'on est amené à cotiser la cotisation patronale et salariale ?
D'accord. Merci pour la question. On va reprendre le coach. Coach, vous avez écouté notre ami ?
Oui, sa question, en fait, ça dépend de son profil. S'il est dans une société SAS, parce que ça dépend de la forme juridique, s'il est en SAS, normalement, il cotise au niveau du régime général s'il prend de la rémunération. Donc, il y aura bien la part salariale et la part patronale. De l'autre côté, s'il est en SARL et il est gérant, dirigeant indépendant, donc automatiquement, il y a une cotisation qui est liée à ce régime qui est spécial, qui ne rentre pas dans la différenciation entre part salariale et part patronale. C'est vraiment quand on est dans le régime général qu'on parle de part salariale et part patronale.
Voilà, nous allons prendre cet autre auditeur. Allô, allô, bonjour. Allô.
Allô.
Oui, bonjour, c'est monsieur.
Monsieur Traoré à l'appareil.
Monsieur Traoré à l'appareil, nous écoutons.
Oui, ma question est la suivante. Lorsqu'on est patron salarié, est-ce qu'on paye la cotisation patronale et salariale en même temps ?
C'est la même question que tout à l'heure. Alors, coach ?
Tout à fait. Quand on est patron salarié, quand vous vérifiez bien votre fiche de paye, déjà, il faut savoir quand vous êtes patron salarié, vous êtes considéré comme cadre. Voilà, vous êtes considéré comme cadre.
Donc, lorsqu'on est patron salarié, vous êtes considéré comme un cadre.
Comme un cadre, parce que sauf si vous avez un contrat de travail spécifique, je vais prendre l'exemple sur le secteur du transport, vous êtes à la fois gérant de l'entreprise et de l'autre côté, vous êtes chauffeur. Mais il faut un contrat de travail distinct de votre rôle de dirigeant en respectant bien sûr le lien de subordination avec le patron, ce qui est souvent difficile à démontrer. Donc il y a bien la part patronale et la part salariale quand vous êtes gérant salarié.
Voilà, nous allons donner la parole à Idrissa. Bonjour Idrissa.
Bonjour
Idrissa.
Est-ce qu'il y a un petit renseignement ?
Allez-y.
En fait, je voulais savoir si un compte entreprise, on a le droit de faire une compte-pargne à côté.
C'est juste pas. De faire quoi ?
Une compte-pargne.
Un compte épargne. Pour
mettre l'argent à côté, ouais.
D'accord, un compte épargne, coach.
Oui, le compte épargne, ça dépend de quelle épargne vous parlez. Si c'est juste l'épargne de trésorerie, donc au niveau de l'entreprise, oui, vous voyez ça avec votre banquier, il peut mettre de côté de l'argent un compte de trésorerie épargné avec une rémunération. Après, il y a les comptes épargne entreprise, ça c'est autre chose, c'est sur le plan social. Vous pouvez en fait décider d'instaurer, au lieu de rémunérer vos salariés en mettant des cotisations sociales sur ces montants-là, vous pouvez mettre le plan d'épargne entreprise qui permettra aux salariés, au bout de 5 ans, de pouvoir récupérer ces sommes-là sans payer de cotisations dessus. Voilà.
Alors nous allons à présent, nous allons enchaîner, il y a beaucoup, beaucoup d'appels, gardez bien l'écoute, nous allons prendre Amadou. Bonjour, Amadou qui est parti, hein, in extremis. Alors, Zikondo Puntu.
Bonjour Phil, maintenant c'est du sérieux parce que l'émission ça m'intéresse beaucoup.
Ouais.
En France, nous on connaît seulement chaque année on déclare les impôts. IRSAF, on ne parle pas de ça, c'est pour ça que je veux savoir. IRSAF, c'est réservé au patron ou bien aux blancs. Parce qu'en Afrique, les salariés ne connaissent pas IRSAF. Donc c'est pour ça que je me dis que je veux savoir. IRSAF, c'est le domaine de blancs ou bien des patrons. Parce que les Africains au Congo là, merci beaucoup de m'éclaircir, M. Phil Montagnard, le grand journaliste de Paris.
Merci beaucoup.
Amen.
Merci, Zikondo Puntu. Toujours aussi spécial. Alors, justement, coach.
En fait, tout est question d'organisation de chaque pays. Et sur les fiches de paye, même au Congo, il y a des cotisations sociales. Donc, l'URSSAF, c'est l'organisme ici en France, mais ça apporte aussi un autre nom au Congo, au Gabon, au Sénégal, au Cameroun, parce qu'il faut, il est nécessaire de rappeler pour qu'on puisse bénéficier de la gratuité au niveau des soins médicaux. Il faut à un moment donné que l'argent vienne de quelque part. Et souvent, ça vient des actifs qui travaillent. On prélève des cotisations sur chaque chaque salarié, chaque employé qu'on met dans un pot commun, et ce pot commun-là ben, sert à financer les hôpitaux, sert à financer les médecins, les infirmiers. Et en Afrique, pour l'instant, c'est pas développé comme ici en France, mais l'objectif, c'est que ben, les présidents africains, les gouvernants africains doivent travailler dans ce sens-là pour permettre aux gens de se soigner dignement. Mais l'argent ne viendra pas, tombera pas du ciel. C'est quand on travaille, c'est quand on crée de la richesse, qu'on prélève un petit montant de cette richesse-là qui est créée pour favoriser et mettre en place un système social adapté à la population.
Alors coach, avant de reprendre notre questionnaire, on va prendre Monsieur Diop. Bonjour Monsieur Diop.
Oui, bonjour Phil, bonjour coach.
Nous vous écoutons Monsieur Diop.
Oui, alors, moi je voudrais demander au coach, parce que j'ai une boîte, d'accord, mais je veux me mettre en auto-entrepreneur, et tout ça c'est par rapport à l'URSSAF.
Vous avez une boîte de quoi ?
Une boîte de course.
Une boîte de course, d'accord.
Voilà, donc j'aimerais bien me mettre en auto-entrepreneur parce que je pense que je gagnerais beaucoup plus. La différence serait de, allez, disons 200-300 euros. Mais c'est déjà quelque chose, ça fait deux caddies de supermarché, je pense.
Ouais.
Voilà.
Voilà, c'est votre question.
Voilà.
Merci. Nous prenons coach. Alors, coach ?
Oui, s'il souhaite. En fait, moi, c'est faire les choses à l'envers. C'est-à-dire que quand on est auto-entrepreneur, on est en train de démarrer une activité économique, on est en train de se tâter, vérifier si les choses vont fonctionner. Mmh. Avoir déjà créé une entreprise et faire marche arrière en disant je vais mettre auto-entrepreneur, c'est pas pour ma part la bonne démarche, même s'il y a question de coût. En tant qu'auto-entrepreneur, c'est on démarre, c'est pour ça que l'État a été, entre parenthèses, généreux en mettant à peine entre 22-24% de taux de cotisation. Voilà, c'est cette démarche-là. Le monsieur a déjà créé son entreprise. L'objectif, c'est faire en sorte que son entreprise prospère et pouvoir facturer correctement pour que l'entreprise puisse assumer les cotisations et non fuir, en fait, sur l'évolution de l'entreprise. Parce que quand vous êtes auto-entrepreneur, ben, il y a des limitations au niveau du chiffre d'affaires. Mmh. Et quand vous voulez, par exemple, acheter des biens, acheter une maison, vous allez être compliqué parce qu'on sait que c'est pas une activité pérenne. Voilà, il y a quand même des inconvénients à se maintenir, à vouloir rester en qualité d'auto-entrepreneur.
Alors,
parce
coach,
même,
nous allons...
Par rapport aux clients, c'est compliqué.
Nous allons essayer de déplucher notre questionnaire. Alors, coach, l'inspecteur de l'URSSAF peut-il exiger l'accès au matériel informatique du cotisant ? Comment ça se passe lorsque l'inspecteur rentre dans votre bureau et exige de prendre votre ordinateur ?
En fait, non, il ne va pas exiger de prendre l'ordinateur par la force. Il va demander, est-ce que vous pouvez me mettre à disposition votre matériel informatique ? C'est vraiment différent parce que vos documents sont informatisés. Vous lui précisez, ben, écoutez, on n'a pas voulu imprimer tous les grands livres. Merci de vous servir au niveau de notre ordinateur. Ça paraît logique. Il ne peut pas exiger absolument que vous mettez, et si vous avez ramené les documents papier. Il va exiger peut-être des fichiers informatisés par le biais des clés USB pour qu'il puisse l'intégrer. Mais comme je vous ai dit, il ne faut absolument pas rentrer en guerre avec l'inspecteur. Vous devez vous mettre à disposition. Oui, absolument.
Mais justement, coach, parce que si vous faites obstacle à ce contrôle, qu'est-ce que je risque, par exemple ? Je dis à cet inspecteur, écoutez. Vous tombez un peu mal, j'ai pas envie que vous contrôliez, vous me contrôlez aujourd'hui, repassez plus tard. Qu'est-ce que l'on risque ?
Déjà, je vais essayer de rappeler en fait c'est quoi l'obstacle au contrôle.
Ouais, l'obstacle au contrôle, ouais.
Voilà, c'est déjà refuser l'accès au lieu professionnel. Là, il y a un premier problème. L'autre possibilité, c'est refuser de communiquer les informations parce que pour pouvoir faire le contrôle, l'inspecteur a besoin qu'on lui fournisse les éléments. Mmh. Et vous décidez carrément ce jour-là en disant, monsieur, moi, j'ai absolument rien à vous donner. Merci de rentrer. Voilà, non. Le fait d'agir de la sorte, vous exposez à de fortes sanctions et à, comme on appelle ça, à un redressement forfaitaire de la part de l'inspecteur par rapport aux documents que vous avez pu fournir. Donc, je le des conseils. Et voilà, vous pouvez même mettre la responsabilité pénale du dirigeant, le fait que vous ne respectez pas l'inspecteur qui se présente à vous. Dites-moi.
Est-ce que justement l'inspecteur de l'URSSAF peut-il se présenter dans l'entreprise sans prévenir ?
Normalement, non. L'inspecteur doit vous informer qu'il va passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, minimum 15 jours qu'il va passer dans vos locaux pour effectuer le contrôle.
Ah, donc, il n'a pas le droit. Il doit prévenir avant de passer.
Non, là, il provient. Ouais. Mais ils ont l'autre possibilité. Si il estime que dans votre, par exemple, salon de coiffure, il y a des personnes qui ne sont pas déclarées, donc il y a du travail dissimulé, là, il n'a pas besoin de vous prévenir. Une visite inopinée, il vient. Il contrôle les salariés. Monsieur, madame, merci de me présenter vos pièces d'identité. L'inspecteur voit avec le chef d'entreprise, lui réclamant les déclarations préalables d'embauche, les contrats de travail, et à partir de là, il pourra faire son opinion, à savoir si l'entreprise respecte déjà les éléments de base. Parce qu'il faut savoir, tout salarié, je dis tout salarié, même un salarié associé, doit absolument être déclaré.
Alors,
ça, c'est une obligation.
Alors, une question un peu spéciale. Est-ce qu'un inspecteur de l'URSSAF peut se présenter avec un agent des forces de l'ordre, par exemple ? Je dis n'importe quoi.
Oui, il peut être avec un agent de forces de l'ordre au cas où il estime que dans cette entreprise-là...
Il est en danger.
Il peut être en danger. Il peut être accompagné, bien sûr, parce que souvent, il y a des gendarmes qui accompagnent les inspecteurs de
l'URSSAF.
De l'URSSAF, ils viennent avec les gendarmes, surtout quand c'est des grands chantiers dans le secteur du BTP. Il y a l'inspection du travail, eux aussi, quand ils se déplacent en masse. L'inspection, quand il s'agit de l'hygiène dans les différents restaurants, ils peuvent être accompagnés des forces de l'ordre pour faire en sorte que le contrôle se passe dans les meilleures conditions.
Alors, parlons entreprise avec Coach Day. On parle du contrôle de l'URSSAF, ce contrôle qui fait tant peur les entrepreneurs, n'est-ce pas, Coach?
Oui, tout à fait.
Les entrepreneurs devaient peut-être arrêter d'avoir peur. Alors, il a patienté depuis un moment déjà. Coach, c'est Marcus qu'on va prendre rapidement. Marcus, bonjour Marcus.
Oui, bonjour Phil, bonjour les auditeurs et bonjour Coach Dominaire.
Nous vous écoutons, Marcus.
La question de l'URSSAF, j'y ai pensé au moment où j'écoutais le Coach Dominaire. Et un auditeur a posé la question. Mais j'ai un cas concret qui est que dans les années 80, un cousin et moi, on devait faire une entreprise, créer une entreprise. Mais à un moment, j'étais déjà dans le fonctionnariat. Mmh. Je suis resté dans le fonctionnariat. Que lui-même, il est resté à créer son entreprise. Avoir des livres services en Martinique, des hôtels de grande renommée. Et que, du coup, quand un employé fait que vous vous retrouvez face à l'URSSAF, et que ça vous reproche de quelque chose que peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est peut-être par une négligence ou un oubli, et que l'URSSAF vous condamne à payer des frais de remboursement, je ne sais pas, et que vous perdez votre holding, vous perdez votre entreprise. Est-ce que l'employé qui lui-même crée son entreprise dans le but de donner du travail à des gens, et que des gens à qui vous donnez du travail vous mettent dans des difficultés et que vous perdez votre entreprise. Donc, moi aussi, j'étais victime de beaucoup de choses. C'est-à-dire,
alors, un patron... La question, parce qu'on va s'y perdre, Marcus, la question principale, c'est laquelle ?
Mais la question principale, c'est-à-dire, est-ce qu'un employé peut-il avoir plus de droits sur un employé peut-il avoir plus de droits sur un entrepreneur ou un créateur d'entreprise?
Voilà, merci beaucoup Marcus. On va répondre, Coach.
Oui, un employé n'a pas plus de droits que l'employeur. Il faut savoir que l'employeur reste maître au sein de son entreprise. Mmh. Dès lors qu'on parle de contrôle de l'URSSAF, c'est les déclarations, elles sont effectuées par l'employeur ou par le biais d'un prestataire tel qu'un cabinet d'exercice comptable que l'employeur paye. Mmh. Le salarié n'a absolument rien à voir. Si l'employeur n'a pas respecté les assiettes de cotisation, il est normal que l'URSSAF puisse faire un redressement d'Urssaf et que l'employeur soit dans l'obligation de payer. Et si la somme dépasse tout entendement, malheureusement, vous serez placé soit en redressement judiciaire ou soit carrément en liquidation judiciaire. Mais je ne pense pas que ici en France, les salariés ont plus de droits que l'employeur, parce que jusqu'au bout, c'est quand même vous qui décidez d'embaucher exact. Ou de licencier, et non l'inverse.
Alors, écoute, ça va être ma dernière question. Hein. Quelles sont les règles, les règles à respecter hein, par rapport aux indemnités kilométriques, par exemple?
Oui, les indemnités kilométriques. Beaucoup d'entreprises utilisent les indemnités kilométriques parce que ces indemnités-là, en général, quand c'est bien respecté, elles ne sont pas soumises à cotisation. Donc, des fois, elles sont mal utilisées, sont utilisées à outrance. Un simple contrôle. Quand on arrive, on voit des indemnités kilométriques forfaitaires en permanence tous les mois, vous êtes redressé automatiquement. On peut pas avoir indemnités kilométriques janvier, février, mars, 300 euros, bas de bulletin, 300 euros, 300 euros, 300 euros. Quand il y a contrôle, il redresse ce montant-là. Parce que normalement, vous êtes censé faire varier vos kilomètres tout au long du mois. Donc, on peut pas avoir des sommes identiques tous les mois. Donc, pour bien faire les choses, il faut la carte grise au nom du salarié. Il faut que tous les mois, le salarié prélève les kilomètres effectués pour ses différents déplacements au nom de l'entreprise et vous allez calculer l'indemnité par rapport à un coefficient qui est lié à la puissance du véhicule, à l'émission de CO2 et vous pourrez le mettre en bas de bulletin. Là, logiquement, vous n'aurez pas de problème. Mais certains employeurs utilisent à outrance et à tort cette ligne-là, indemnité kilométrique, pour éviter de payer et, les cotisations sociales. Sachez-le qu'en cas de contrôle, vous ferez objet d'un redressement URSSAF.
Voilà. Merci coach, c'était Parlons Entreprise. Donc rendez-vous mardi prochain, vous serez en direct avec nous, toujours. Mais ce sera c'est plutôt physiquement et on respectera bien sûr hein, les normes de distanciation dans le studio, pas plus de 3 personnes, voilà, avec nos masques. Merci beaucoup coach et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Je vous en prie, à la semaine prochaine.